Hal, do you read me? Do you read me, Hal?
Affirmative, Dave. I read you.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.
Yeah!
Et ce soir, c'est donc, comme tous les 15 jours, les déportés du Cambrien. Les déportés du Cambrien qui sont en alternance, donc, comme vous le savez maintenant, avec Angle Mort. Coucou Eric. Et ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale.
Oui, parce qu'on n'est pas les déportés, on est les biportés, en fait.
Les biportés, c'est ça. On n'est pas très nombreux dans le studio. Et donc, on va faire une émission un petit peu spéciale, contextualisée au fait qu'on n'est que deux ce soir. Et surtout même, peut-être, je dirais un, puisque c'est surtout toi, Camille, qui va parler ce soir.
Eh oui, c'est une émission ventriloque. Je vais parler à plusieurs voix. Mais bon, quand même, Fabien est là pour me soutenir. Voilà. Et puis, voilà, de toute façon, ce choix, il est effectivement circonstancié. Il tient à beaucoup de choses. La première chose, c'est peut-être aussi qu'on n'avait pas beaucoup d'auditeurs. Donc, nos camarades se sont portés volontaires pour être auditeurs ce soir et non pas intervenants. Merci à vous.
Et donc, de quoi il va être question ce soir? Tu veux nous en dire juste un mot?
Juste un mot. Ce soir, la thématique, ça sera globale, ça sera enfance et anarchie.
Ah, ça, c'est un bon thème. Et donc, on va se lancer tout de suite une petite première chanson pour se mettre un petit peu en forme. Et donc, je lance ça tout de suite. Voilà, donc c'était les Tugs pour commencer, et c'était Aller les filles, donc un petit clin d'œil et une spéciale dédicace pour Emma et Zoé. Aller les filles, à bientôt. Donc c'est à toi maintenant. Alors, je vais essayer de rebondir. On va essayer d'improviser ce soir.
J'ai le champ libre. Alors moi, c'est pas du tout de l'improvisation, puisque je me propose de vous faire une intervention sur une thématique assez compliquée, dans la mesure où je vais essayer de partir en fait sur une lecture de Giorgio Agamben, philosophe italien contemporain. en essayant de broder quelque chose autour de la question de sa redéfinition de la souveraineté politique. En lien avec ce lieu d'être qu'est l'enfance chez nous et qui pourrait être compris comme un lieu subversif de l'être. Donc je commence voilà comme ça. On va essayer aussi d'entrecouper un peu mon intervention longue
par
des pauses musicales. Voilà,
essayer de réfléchir à ce que tu nous as dit.
Voilà, et puis aussi voilà, à me permettre de boire une petite bière aussi de temps en temps, une petite gorgée pour voilà, pour me donner de l'entrain parce que ça va être un monologue. J'espère que je vais pas être trop long.
Non, mais je vais essayer de t'interrompre. Je ferai le gentil petit élève qui lève le doigt pour te dire j'ai pas compris ici.
Ah oui, bah c'est bien, mais c'est tout à fait dans la thématique, mais j'espère que que tu vas te montrer beaucoup plus rebelle que ça, hein, parce que justement on est là aussi pour détruire les relations de maître à élève et voilà. Donc, du coup, je vais essayer de vous présenter dans un premier temps, en fait, le cadre général hein, dans lequel Giorgio Agamben inscrit sa pensée. Voilà, et je pense qu'on peut dire qu'en fait, que pour lui, la grande question contemporaine, c'est celle que pose le renversement ou la transformation, en fait, des sociétés démocratiques occidentales en sociétés autoritaires. Donc toute sa réflexion, elle repose sur le constat d'un effacement tendanciel entre démocratie et absolutisme, et qui se traduirait selon lui par la substitution de la forme des démocraties parlementaires au profit de ce qu'il appelle des démocraties gouvernementales. Donc à l'intérieur de celle-ci, il dit que l'état d'exception se trouve élevé au rang de principe premier de l'action politique. Alors c'est une interrogation qu'il développe notamment en fait dans sa trilogie bien connue qui s'appelle Homo Sacer, et notamment en fait dans le premier volet de cette trilogie qui s'appelle Le pouvoir souverain et la vie nue, où il pose un certain nombre de concepts préliminaires sur lesquels il va ensuite appuyer l'ensemble de son analyse politique et philosophique. Donc, dans ce premier volet, hein, le pouvoir souverain et la vie nue, sa grande originalité à Agamben, ça consiste à relier en fait cette mutation des démocraties en pouvoir autoritaire, donc à la relier en fait à une analyse historique de grande envergure. Pour aller en découvrir l'origine à l'aube de la civilisation occidentale et dans le monde grec en particulier.
Alors je lève pas le doigt, mais pardon, j'ai peut-être il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. C'est quelle époque en fait, pour replacer dans le contexte politique, il a écrit ça.
C'est assez récent. C'est un philosophe extrêmement contemporain. Là, ce soir, je vais parler essentiellement de deux bouquins. Un bouquin. Donc son analyse, il viendra à la fin de mon intervention. Mais ouais. Donc Enfance et histoire, qu'il a écrit en 83. Et le premier volet d'Homo Sacer, j'ai oublié de regarder quand est-ce qu'il l'avait écrit, mais oui. c'est extrêmement contemporain. Et puis pour le resituer un petit peu plus, c'est-à-dire que lui s'inscrit directement en filiation en fait avec les développements de Michel Foucault sur le biopouvoir et la biopolitique. D'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est encore très actif, qui est aussi extrêmement présent, on peut dire, sur la scène subversive. Il donne beaucoup de conférences auprès de des totos, des voilà, donc quelqu'un de voilà d'accessible encore aujourd'hui, et puis qui écrit de manière extrêmement prolifique, qui donne beaucoup d'interviews. Moi je vous conseille d'aller taper Agamben sur le net et vous allez trouver plein de trucs vraiment très très bien, très récents, sur des points politiques actuels, quoi.
Ok, merci.
Donc pour revenir un peu sur cette question en fait des origines autoritaires en fait de nos démocraties contemporaines. Donc il les lie en fait lui à des structures extrêmement profondes qui agissent dans nos sociétés de manière invisible depuis des siècles. Si bien que, loin de composer une situation seulement transitoire ou localisée, cette tendance à l'autoritarisme en compose bien plutôt, selon lui, la norme ou la tendance naturelle.
Donc il en fait remonter, en fait, cette problématique, il la fait remonter au péché originel de la démocratie grecque, qu'il rend coupable d'avoir institué une définition de la citoyenneté et de la souveraineté politique sur des bases théoriques, conceptuelles et pratiques qui les rendent indissociables d'un acte de violence originel, par où l'ordre juridico-politique acquiert sa stabilité et sa consistance, et que le pouvoir réactif chaque fois qu'il éprouve la nécessité d'exprimer sa puissance fondatrice. Donc, à partir de là, il faut considérer en fait que la violence est pas tant un défaut du pouvoir, mais le principe à l'origine de sa production. Agamben estime en effet que la pratique du pouvoir, telle que nous la connaissons en Occident, elle repose dans son fondement sur la déclinaison constante et partout réitérée d'un état d'exception. Cet état d'exception reposerait sur des mesures complexes de déqualification et de requalification qui viseraient à réduire certaines catégories d'individus à n'être qu'une corporéité silencieuse, intégralement offerte à l'exercice d'une force contraignante de correction, d'enfermement, de rééducation et à l'extrême d'exécution et de mise à mort. Cette centration du politique autour de la gestion du vivant, elle est considérée la gestion du vivant considérée comme espace de conquête, c'est ce qu'on appelle depuis Michel Foucault la biopolitique. Et Agamben considère que l'objet propre de cette biopolitique, c'est ce que les Grecs désignaient par le terme de zoé, qu'il traduit quant à lui par l'expression de vinu, et qui désignait le simple fait de vivre commun à tous les êtres vivants. La zoé s'inscrit en opposition au bios, c'est-à-dire à la vie qualifiée, qui indique dans la pensée antique la forme ou la façon de vivre propre à un individu ou à un groupe.
Donc la zoé, c'est, je veux bien que tu me le réexpliques.
Donc la zoé, en fait, du coup, c'est le simple fait de vivre pour tout un chacun, qu'on soit chez les Grecs végétal, animal, humain ou Dieu, hein, c'est-à-dire ou des dieux, c'est-à-dire que c'est simplement le fait d'être des vivants dans un monde, voilà. D'accord. Le bios, à l'inverse, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est la vie que, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est la vie qu'on se donnerait nous en tant qu'humains, en tant que participants à une société, à des échanges.
D'accord, c'était là-dessus que je voulais revenir. Donc il y a l'aspect quand même de la contrainte de la société en fait.
Bah oui, effectivement, et c'est ce qu'on va découvrir petit à petit, c'est-à-dire que le bios, là où on pourrait effectivement le considérer comme une qualification qui surgirait en fait d'un effet de volonté ou de libre arbitre ou de etc. En fait, Agamben va dire que ce bios, cette vie politique, est en fait un effet de contrainte.
D'accord. Eh ben, une petite pause.
Ouais.
Une petite pause. On se met deux chansons. Comme ça, t'as le temps de boire un petit coup.
Voilà. Et puis de reprendre mon souffle.
Voilà. À tout de suite.
La 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie.
Elles étaient si belles que je n'ai pas pu résister. Je voyais en elles la beauté.
Fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est grave la vie.
Et moi, dans leur cœur, je retrouvais la vérité. Comment
années. la 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 la. Pense aux conséquences. Les poupons, les biberons, les berceaux, les landaux, les pipis et les bobos. Les bobos.
Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu et c'est donc l'émission Les Déportés du Cambrien avec une émission un petit peu particulière ce soir puisqu'on a été un petit peu abandonné par les filles et par Ben.
Et par Ben, ouais.
Et par Ben.
Ben qui a disparu dans le fog londonien. Le fog londonien.
C'est pour ça qu'on a besoin d'eux, parce que tous les deux, là, on est...
Ça nous émeut beaucoup, on bafouille.
On bafouille. Et donc, t'étais en train de nous parler de Zoé et Emma, mais et... plutôt de Zoé. De Zoé
et Bios.
Zoé et Bios. Pardon, je me suis trompé, je m'égare. Et voilà.
Bah. Et voilà. Et du coup, toujours sur le thème enfance et anarchie. Pour l'instant, on est loin de l'enfance sur les premières explications que j'ai données. Ça va venir petit à petit.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que
l'enfance et l'anarchie.
Mais du coup, ça va être peut-être pouvoir enfance et anarchie, parce qu'on va commencer par cette déclinaison du pouvoir. Et voilà, et donc je reprends mon intervention là à peu près où je l'avais terminée avant la musique, en disant qu'en fait toute l'ambition d'Agamben, c'est d'essayer de renverser en fait le schéma classique au travers duquel on aborde généralement la question de la souveraineté politique. Autrement dit, la question du pouvoir politique originaire et d'où tous les autres pouvoirs découlent.
Et donc il essaie de montrer que la souveraineté politique en fait ne repose pas en premier lieu sur le développement d'une parole centrée autour de la question du bien commun. Elle ne repose pas non plus en fait sur des effets de contractualisation, comme on l'envisage généralement depuis Rousseau. Mais que cette question en fait de la souveraineté politique, elle repose en fait sur une très étrange méthode qui consiste à exclure la vie comme impolitique et en même temps de l'incurer par ce geste même. Alors c'est une formule extrêmement obscure, exclure la vie comme impolitique et en même temps l'inclure par ce geste même. Alors on peut prendre en fait un exemple extrêmement concret pour expliquer voilà cette formule, en partant par exemple de la situation des usagers de drogue, et que le pouvoir stigmatise en raison d'une pratique du corps qu'il juge inadaptée ou anormale, et auquel il réserve un régime particulier qui en passe par exemple par l'incarcération ou par l'injonction aux soins. Dans les cas d'incarcération de ces usagers, en fait, on voit que les pouvoirs à la fois les excluent du corps social en leur réservant une position marginale, mais on voit aussi en fait que cette exclusion, c'est aussi bien une inclusion, car placés en prison, ils se trouvent en fait placés au cœur même de la structure répressive du pouvoir. Et le corps des usagers de drogue est ainsi l'organe d'une politisation de leur vie qui la rend inextricablement liée à la vie du pouvoir. Donc, exclure la vie comme impolitique et en même temps l'inclure par ce geste même. Donc, à partir de ça, Agamben émet l'hypothèse que l'enjeu véritable du pouvoir consiste d'abord en une opération menée sur la vie, avec comme objectif de politiser dans un sens toujours bien déterminé cette vie nue ou zoé, qui en elle-même se découvre à l'origine comme impolitique. On pourrait dire en fait que Agamben refuse la définition de l'homme comme animal politique, du moins dans son interprétation naturalisante. Il trouverait plus juste, certainement, la formule selon laquelle l'homme serait un animal politisable, et qui ne deviendrait animal politique non tant en raison d'un effet tiré de sa volonté propre, mais parce qu'il s'y trouve conduit par tout un effort de mise en articulation ou de mise en corrélation de sa vie naturelle avec les grandes orientations du pouvoir. Donc pour Agamben, le politique est une capture de la vie sous une certaine modalité. Donc capture qu'il faut entendre au sens double du terme. Capture au sens commun d'emprisonnement, d'aliénation et d'assujettissement, et à la fois au sens de détournement, comme par exemple quand on parle de la capture d'un fleuve pour désigner l'action de les détourner de son lit pour le faire verser dans un bassin adjacent. Donc chez lui, chez Agamben, la structure du pouvoir se présente essentiellement comme une entreprise constante de définition et de redéfinition de l'humain, qui a pour fonction de produire un corps biopolitique dont la forme générale répond à ses besoins essentiels ainsi qu'à sa survie. Ou encore, pour résumer ce dernier mouvement de pensée, la logique de la souveraineté, c'est une logique de capture de la vie, d'isolement ou d'exception d'une vie nue ou zoé, exposée à la violence et à la puissance de mort du souverain, et plus généralement à une décision qui la qualifie et en détermine la valeur.
Tu faisais référence tout à l'heure à Foucault. Justement, ça, c'est ce que tu viens de dire n'est pas justement un petit peu en résonance avec ce qu'il a pu dire dans ses livres sur surveiller, punir.
Oui, tout à fait. Sauf que, à la différence de Foucault en fait perçoit cette création du corps biopolitique comme une évolution en fait du pouvoir sur le très long terme. En fait, le biopolitique n'est que le dernier instrument du pouvoir. Agamben, lui, imagine en fait que le biopolitique, c'est l'origine même du pouvoir. Qu'il n'y a pas de pouvoir, en tout cas sur en Occident depuis la démocratie grecque, autrement qu'un pouvoir biopolitique. En fait, c'est sur cette ligne de fracture que l'un et l'autre se posent. C'est-à-dire que l'un, Foucault, on pourrait le dire peut-être plutôt évolutionniste, dans un certain sens, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir crée des instruments qui le servent, et la biopolitique est un instrument.
Agamben, lui, va beaucoup plus loin et dit que voilà, il y a il est peut-être plus naturaliste dans ce sens-là, en disant bah que le biopolitique, c'est le politique en fait.
Okay. Et ben, je propose une petite pause musicale.
Ouais, hein, allons-y.
Et ben, c'est parti.
Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute des déportés du Cambrien.
Des biportés, on a dit.
Les biportés, c'est vrai, les biportés du Cambrien. Émission exclusivement masculine ce soir.
Malheureusement.
Malheureusement, mais elles vont vite revenir, on est sûr. Et donc, on était en train de parler de plein de choses, Camille, et tu nous avais promis quand même un petit peu d'anarchie et un petit peu d'enfants rebelles.
Eh ben oui, mais j'y
Alors,
viens.
J'aimerais bien que tu y viennes quand même.
J'y viens, maître.
Non, je suis l'élève, moi, l'enfant.
Oui, mais hey, le but, c'est quand même de renverser ses positionnements.
D'accord.
C'est peut-être même pas d'ailleurs de les renverser. Hein, c'est peut-être de trouver d'autres modes de communication et d'autres modes de transmission que ceux forcément hiérarchiques. D'ailleurs, on va même pas. Mais peut-être que ça passe déjà par un renversement. Bon, ça, c'est la dialectique marxienne ou hegelienne. Mais bon, là, on est chez Agamben, hein, donc ne nous emballons pas.
Oui, revenons-en à nos machins, là.
Oui, à nos machins. Donc, bah, je vais y venir, mais progressivement. Il me reste encore un petit truc, quand même, à dire.
Oh là là là, tu nous parles des enfants et de l'anarchie, des rebelles.
Mais ça arrive. Parce qu'il faut bien comprendre, en fait, comment fonctionne le pouvoir, en fait, avant d'essayer de le renverser. C'est-à-dire qu'on peut pas s'attaquer au pouvoir comme ça, d'un bloc, frontalement. C'est-à-dire qu'il faut en connaître les failles, il faut connaître comment il procède, et ensuite on le renverse.
Ah, donc tu vas nous donner des clés
Bah, c'est pas moi, c'est Agamben, hein, qu'on donne.
Okay. Il va nous... Bon, ok.
Bon, après, je me fais porte-parole, en quelque sorte. Donc, voilà, et je me fais d'autant plus porte-parole que, je vais le citer, en fait, dans un interview qu'il a donné à la revue Vacarme en 2000, et où il revenait en fait plus spécifiquement sur les effets de cette conception de la souveraineté sur le fonctionnement de nos démocraties contemporaines. Et il s'exprimait dans ces termes. L'État moderne fonctionne, me semble-t-il, comme une espèce de machine à désubjectiver, c'est-à-dire comme une machine qui brouille toutes les identités classiques et, dans le même temps, comme une machine à recoder, juridiquement notamment, les identités dissoutes. Il y a toujours une resubjectivation, une réidentification de ces sujets détruits, de ces sujets vidés de toute identité. Aujourd'hui, il me semble que le terrain politique est une espèce de champ de bataille où se déroulent ces deux processus. En même temps, destruction de tout ce qui était identité traditionnelle, et je le dis sans aucune nostalgie bien sûr, et resubjectivation immédiate par l'État, et pas seulement par l'État, mais aussi par les sujets eux-mêmes. Donc ça, c'était Agamben en 2000, voilà. Donc il y a quand même une forte attaque critique, hein, dans cette citation. Donc attaque critique contre l'entreprise d'encodage et de réencodage des subjectivités que mène le pouvoir. Et cette attaque critique, elle se présente aussi en creux, en fait, comme un programme d'émancipation. Un programme qui se présente tout entier sous le signe de ce qu'on pourrait appeler une culture du désœuvrement. Cette culture du désœuvrement, elle aurait en effet pour objet de nous entraîner le long d'une pente destinée à détruire en nous les différentes prises par lesquelles le pouvoir parvient à nous assigner à identité. Pour Agamben, comme pour Michel Foucault d'ailleurs, notre subjectivité n'est pas ce qui d'abord nous rend sujet, mais c'est d'abord ce qui nous rend objet. Dans la mesure où cette subjectivité, elle se présente en nous comme l'inscription à même notre vie nue, à même notre zoé, d'une norme qui scelle notre adhésion avec les structures du pouvoir. Donc il s'agit alors pour Agamben de chercher à développer un art de vivre qui oscillerait entre souci de soi et destruction ou déconstruction de son identité propre. Et par là, l'objectif serait double, échapper à l'emprise totalitaire du pouvoir en se rendant inidentifiable à ses yeux et se redécouvrir soi-même comme créateur de sens.
Je peux t'interrompre, ouais. Ouais. Alors du coup, je comprends plus la notion d'identité, ou alors je comprends plus ce que c'est que qu'est-ce qu'on est au fond. Alors finalement, parce que j'ai l'impression finalement que ce qu'il dit, c'est que l'identité, la construction par rapport à la société, hein, si je fais ça très simplement et avec mes mots, et qu'il faut retrouver sa propre identité à soi. Mais alors, elle est quoi? Parce qu'on n'est rien sans la société. qu'est-ce qu'on est finalement, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver finalement d'originel, sachant que, alors, bah oui, sachant que finalement, l'identité ne peut être que la construction de soi dans une société.
Alors, oui, effectivement. Le truc, c'est que pour lui, cette identité ou cette subjectivité, elle a trait toujours à la définition à l'intérieur en fait de cette société, à une définition de soi par rapport aux autres dans cette société, dans cette société politique qui se fonde voilà sur un acte de violence inaugural. C'est-à-dire que alors là effectivement j'ai sauté toute une partie parce qu'il me semblait que c'était déjà assez long, mais du coup il y a deux déclinaisons pour Agamben en fait de la subjectivation des individus en fait dans cette société politique, qui est soit en fait tu te trouves toi du côté en fait des citoyens, de ceux qui à qui on admet un droit de parole, des droits juridiques, une liberté constitutionnelle, etc. Le problème, c'est que cet accès à cette identité politique là, elle ne se fonde que parce que par ailleurs, en fait, il y a des esclaves, il y a en fait tout un à côté de ça un processus de désubjectivation ou de destruction en fait des autres, de ceux qui sont placés à la marge parce que différents, parce que voilà quoi. Et en fait, du coup, c'est bien essayer de trouver un processus d'identification qui peut être collectif, hein, d'ailleurs, et ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que un processus d'identification, de subjectivation qui sorte, en fait, de ce phénomène d'exclusion-inclusion.
D'accord. Donc, il part à la recherche, en fait, de ce qui est en chacun de nous, et donc, ce que tu nous proposais comme suite à ça, c'était justement une explication en fait de comment retrouver en fait ça.
Bah comment, je sais pas. En tout cas, c'est de trouver un lieu d'être, et ce lieu d'être en fait pour Agamben, on va découvrir que c'est l'enfance.
Ah.
Et ouais. Mais enfin, du coup, enfin. On peut faire peut-être une petite pause encore.
Ok, mais quand même -20 et toujours pas d'enfance et toujours pas d'anarchie.
Ah ouais, merde, mais ah aussi. Ah.
C'est pas grave, on y va.
Par hasard, je la mets dans le placard. bon gars ou une souris rose. Qui gratte et qui cause, qui gratte et qui cause. Je l'attrape par la peau du dos, je l'emmène dans mon auto. Ces messieurs me disent, trempez la dans lui, trempez la dans l'eau. Ça fera un excellent gigot, une souris grise. Je lui fais des bises, je lui fais des bises. Je l'attrape gentiment, elle appelle sa maman. Ces messieurs me disent, trempez la dans lui.
Et oui, c'est bien Radio Canu et c'est bien les déportés du Cambrien. Et on entend tout, on attend toujours ce final sur l'enfance et l'anarchie.
Oui, ce feu d'artifice. Et il arrive. Donc l'enfance comme YouTube version. Donc en fait, ce que cherche en fait Agamben finalement, c'est les moyens de créer une civilisation véritablement anarchique dans laquelle les pouvoirs dominants seraient désactivés au profit des puissances de chacun. Donc cette position médiane entre subjectivation et désubjectivation, c'est celle qu'occupe aux yeux d'Agamben l'enfance. Là voilà.
Enfin.
Ben ouais.
Je savais.
D'abord parce que l'enfance, comme l'indique son étymologie, se situe au seuil double du silence et du langage. Pour Agamben, l'enfant n'est en effet pas tant celui qui se trouve privé du langage, du fait de sa non-encore acquisition, que un lieu à l'intérieur de l'être où l'œuvre de mise en sens du monde existe en puissance, mais non encore en acte. En d'autres termes, l'enfance en l'homme est à considérer pour Agamben comme un espace chaotique de récréation perpétuelle, où il peut être donné à chacun de revenir à son indétermination fondamentale ou à son désœuvrement ontologique, en deçà du pouvoir des mots et du sens unilatéral de l'agir productif. L'enfance serait alors en chacun de nous l'espace même du possible. Elle serait l'espace de notre révolution permanente. Car soustrait en son sein à l'obligation de produire, ou à celle de parler au travers des formules du sens commun, nous pouvons nous y consacrer à cet acte de résistance qu'est la création de nouvelles formes de vie, ainsi qu'à l'exercice d'une parole qui serait d'abord voix et chant. Pour Agamben, en effet, créer, c'est faire passer dans l'acte même la puissance de ne pas. L'acte de création, c'est d'abord une interruption de notre participation à l'ordre normal ou normatif du monde. C'est autrement dit, mettre en acte notre puissance de ne pas faire, de ne pas agir, de ne pas parler, de ne pas discourir, de ne pas travailler.
Attention, je risque de couper l'antenne.
Eh oui, parce que c'est vrai que je discours et que je parle depuis pas mal de temps maintenant.
Attention.
Eh oui, en fait, je suis le contre-exemple du texte.
Ton émission est menacée.
Mais on pourrait.
Non.
Mais permets-toi, ça peut être un jeu rigolo. Et donc, je le cite à nouveau. Et donc, il dit « Créer, c'est une activité qui consiste à rendre inopérantes toutes les œuvres sociales de l'économie, du droit, de la religion, pour les ouvrir à d'autres usages possibles. Car c'est cela le propre de l'homme, écrire un poème en dépassant la fonction communicative du langage, parler ou donner un baiser en détournant de sa fonction la bouche, qui sert d'abord à manger. » L'homme est l'animal désœuvré. Il n'a aucune tâche biologique assignée, aucune fonction clairement prescrite. C'est un être de puissance qui peut sa propre impuissance. L'homme peut tout, mais ne doit rien. En tant qu'espace de désœuvrement et de création, donc l'enfance se présente donc pour Agamben comme un pouvoir de désactivation des différentes opérations par lesquelles le pouvoir souverain capture notre puissance vitale, que ces opérations soient linguistiques ou corporelles, matérielles ou immatérielles, biologiques ou sociales. L'enfance est en ce sens profanation des différents dispositifs de contrôle par lesquels le pouvoir s'assure la mainmise sur nos vies en en déterminant le sens ou la valeur. Or cette profanation n'est pas tant destruction que force subversive destinée à renverser l'usage habituel des choses et du langage.
et son moyen d'activation, c'est le jeu. Les jeux du corps par lesquels il sera possible un nouvel apprentissage de nos fonctions corporelles, dans un sens subversif ou parodique. Jeux du langage au travers desquels on va parodier la communication, l'information, les médias, en poétisant la langue. Jeux sexuels enfin, par où nous pourrons nous réapproprier l'usage révolutionnaire d'une co-jouissance qui annulerait en nous la marque d'une sexualité placée sous le signe de la consommation. C'est terminé.
Oh, c'est terminé. Encore Camille.
Eh ben, peut-être la conclusion, c'est faites des gosses.
Ok, vas-y.
Là maintenant.
Bon, c'est vrai que ce soir, ça va être difficile. Bon, tant pis alors.
Eh ben ouais, on peut se réécouter, voilà.
Proposer la suite de ce que tu avais mis sur la clé.
Ouais, je me rappelle plus ce qu'il y a, mais allons-y. La linéa. Alors ça, la linéa, c'est un bel exemple en fait de subversion du langage. La linéa, je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez la trentaine comme moi, dans les années 80, il y avait un dessin animé qui passait à la téloche, un dessin animé italien. C'était une ligne et puis il y a un petit bonhomme qui se baladait sur cette ligne, voilà. Et en fait, le gars qui fait les bruitages de ce dessin animé-là est un artiste complètement dingue. Et du coup, on retrouve là une très très belle subversion du langage par l'apparition d'une voix, une vraie voix.
Eh ben, écoute, on met ça et puis après ça va enchaîner sur tous les trucs.
Tous les trucs, c'est un truc pas mal aussi. Voilà, une belle chanson d'enfant sur la consommation dans les supermarchés.
Et ben, du coup, on va enchaîner ces deux morceaux et puis on laissera la place à la causerie.
Eh ben ouais, c'est bien ça.
Ben, merci Camille pour cette intervention d'une heure. Tu as été héroïque. Bravo à toi. Et merci aux auditrices et aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Merci de votre patience. Lisez Agamben, c'est bien, c'est super compliqué, mais c'est vachement bien.
Donc on se retrouve dans 15 jours, si tout va bien. Et la semaine prochaine, Angle Mort, si également tout va bien. Salut.
Ciao.
Pour bien être en gourmand, pour bien être en bourrin, parce que c'est bon tout. qu'elle adore. Tra la 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 la, allez. Tra la 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 la. Tra la 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 la. Quand tout le monde travaille bien, ils auront beaucoup d'achats. Tu fais la même chose, hein, Marc? Marguerite et Jean vont bien m'acheter, bien payer, pour qu'ils sont bien contents, pour avoir beaucoup d'achats. Ils travaillent très bien, ils font du jeu tout bien, pour bien travailler.